Dieu est bon, hein, il a... le culte pour lui, c'est tout un ensemble. Et voilà, donc ce dont je vais parler, ben, on a déjà commencé à le mettre en pratique, à fond la caisse, de plusieurs manières. Alors bon, donc vous allez peut-être vous dire, mais ces choses, on les vit déjà. Ben oui, on les vit déjà, parce que ça a déjà commencé. Mais Dieu veut qu'on les vive encore plus, qu'on aille encore plus loin. Et donc c'est un approfondissement dans sa parole que je vous propose ce matin. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais qu'on a besoin de creuser plus pour justement les mettre en pratique plus régulièrement, je vais dire, plus continuellement, parce que c'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà. Donc c'est bon. Mon message s'intitule « Quelques clés pour le réveil », hein, mais mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. C'est vraiment voilà, des choses que le Seigneur veut nous dire. Alors, ce sera peut-être à certains moments que vous serez touchés dans le message et pas du tout à d'autres. Alors, vous inquiétez pas. Dieu sait ce qu'il a besoin de dire à chacun. Et moi, je refuse de m'inquiéter aussi en me disant « c'est des portes ouvertes que je vais enfoncer ». Non, c'est pas vrai. C'est vraiment Dieu qui veut vous parler au travers de ce message, j'en suis sûre. Voilà. Alors, dans Luc... chapitre 17 au verset 21, Jésus dit, et il dit pas seulement à ses disciples, aux 12, mais il dit à la foule, hein, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est pas au milieu de vous, comme c'est dit dans certaines Bibles françaises, mais c'est bien au-dedans de vous, dans la Bible anglaise. Voilà, voilà. Donc le royaume de Dieu est au-dedans de nous, comme une semence qu'on porte. Et voilà qu'on doit répandre. Et d'après Matthieu 13, tout le chapitre 13 de Matthieu en parle du royaume de Dieu, hein, et il parle de la semence du royaume, la semence qui est bon. Il y a d'abord la parabole du semeur, etc. La semence du royaume, hein, la bonne semence. Eh ben c'est la parole de Dieu, hein, bien sûr, la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs et qui porte son fruit. C'est une promesse aussi de la parole, hein, que la parole n'est pas semée sans porter du fruit. Mais c'est aussi les fils du royaume. Jésus dit que la semence, ce sont les fils du royaume. Il le dit, je crois que c'est au verset 39, enfin, c'est vers ce verset-là en tout cas. Il dit donc que la semence, ce sont les fils du royaume, ce sont ceux qui annoncent la parole de Dieu. Donc on porte en nous le royaume de Dieu, comme un bébé réveil. Et cette semence, ben, elle doit grandir de plus en plus, jusqu'à la moisson. C'est aussi ce que Jésus dit, que la semence du royaume grandit de plus en plus, mais en même temps, il y a aussi l'ivraie, la mauvaise herbe qui grandit. Il y a ce que l'ennemi sème dans nos vies et dans les vies des gens autour de nous, qui grandit de plus en plus. Et Dieu laisse grandir les deux en même temps, pour ne pas enlever la semence du royaume, justement, il laisse grandir les deux en même temps jusqu'à la moisson. Et la moisson, il est dit que ce sera la fin de l'âge, c'est-à-dire la fin de ce monde actuel, hein, de ce monde de péché. Et pour savoir quand c'est la fin de l'âge, hein, eh bien, il y a deux textes qui sont précieux, c'est Matthieu 24, versets 3 à 8, et Luc 21, versets 7 à 11. Alors, je ne vais pas les lire pour ne pas prendre trop de temps, mais Jésus parle dans ces deux textes à ses disciples, là, il parle des signes de la fin des temps. Et il appelle ça les douleurs de l'enfantement. Il parle des guerres, des famines, des douleurs, des pandémies, les pestes, hein, comme c'est dit, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Hein. Et on se rend compte... on se rend compte que ces douleurs de l'enfantement, ben, sont de plus en plus présentes dans notre monde actuel, sont de plus en plus proches, de plus en plus fortes, voilà, que l'enfantement, ben, on y est presque. Et l'enfantement, ben, c'est la fin de l'âge, c'est-à-dire c'est le retour de Jésus, on y est presque. Et puis il y a aussi le texte de Joël, bien connu, hein, Joël 3, versets 1 et 2, qui parle du temps où Dieu ramène les captifs de Sion, les captifs de Juda et de Jérusalem, plus précisément. Hein. Et la Bible anglaise dit, au lieu de ramener les captifs, elle dit quand Dieu restaurera Juda et Jérusalem. Et elle dit, donc c'est le verset 1, hein, et le verset 2 dit que c'est aussi le temps où Dieu rassemble toutes les nations pour entrer en jugement contre elles au sujet d'Israël, au sujet du peuple d'Israël qui a été dispersé parmi les nations, et aussi au sujet de la terre d'Israël qui a été partagée entre les nations, alors que c'est la terre de Dieu. Et on sait bien que ce temps a commencé, il y a eu la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, et depuis il y a de plus en plus de Juifs qui font leur alia, qui retournent dans la terre d'Israël. Donc les captifs des nations sont ramenés en Israël de plus en plus. C'est pas terminé, mais c'est vraiment en cours. Et on sait bien que, voilà, en Israël, c'est la même langue, l'hébreu, qui est parlée depuis le temps de Jésus et même avant. Hein. Et c'est cette langue où les juifs messianiques, commencent de plus en plus à adorer Jésus. Et on sait bien que, voilà, c'est à Jérusalem que le temple va être construit et que Dieu et que Jésus reviendra. On sait tout ça. Donc ce temps a déjà commencé et la fin de ce temps, ben, c'est annoncé clairement, c'est le salut de tout Israël. Et le retour de Jésus comme roi, mais roi pas seulement d'Israël, roi de la terre à Jérusalem. Et dans Romains 11, versets 25 et 26, hein, je vous en ai déjà parlé, il est dit que c'est quand tous les non-juifs seront entrés en possession du salut que tout Israël sera sauvé. Et actuellement, bah, les choses s'accélèrent. Il y a de plus en plus de gens qui viennent à la foi dans le monde entier. On ne s'en rend pas trop compte en France, parce que c'est surtout dans l'hémisphère sud que ça se passe. C'est en Amérique latine, c'est en Amérique centrale, c'est en Afrique, c'est en Asie, entre autres en Chine, hein, beaucoup en Chine. Voilà. Donc en Europe, on ne s'en rend pas encore compte. Mais même en Europe, il y a un mouvement de l'esprit où les jeunes, la jeune génération, est vraiment touchée. Donc les choses sont en train de s'accélérer. C'est le temps où il doit y avoir un grand réveil, et aussi dans l'hémisphère nord, et en particulier en France, parce qu'il a été prophétisé, hein, que c'est la France qui entraînerait les nations de l'Europe, les nations de l'hémisphère nord, vraiment dans le royaume de Dieu, quoi. C'est la France avec son cœur passionné, voilà. Et puis la France est aussi appelée à révéler le cœur du Père. Et c'est de ça dont le monde a besoin. Donc voilà, il y a ce plan de Dieu. Alors quelles sont les clés que Dieu nous donne pour que ce réveil ait lieu en France? Alors je n'ai pas la prétention de donner toutes les clés pour le réveil, mais je veux juste en donner quelques-unes que j'ai trouvées dans Josué 1, versets 1 à 9, les 9 premiers versets du livre de Josué, et dans Acte 2, qui raconte la Pentecôte. Alors Acte 2, vous connaissez bien, donc je ne vais pas le lire. Par contre, Josué 1 à 9, c'est peut-être moins connu, donc ça, je vais le lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ou traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, excusez-moi, mais là la traduction française n'est pas bonne, donc je prends la traduction anglaise. Donc votre territoire s'étendra du désert au sud d'Israël jusqu'au Liban, et du grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer de l'Est, c'est-à-dire la Méditerranée. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, dans ce texte, oui, il y a donc plusieurs clés, hein, j'en ai trouvé cinq. La première clé que j'ai trouvée, c'est « Moïse, mon serviteur, est mort ». Et qu'est-ce que ça signifie ? Ben, Moïse, c'est celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, mais ils sont allés où juste après ? Ils sont allés, donc Moïse les a conduits, hein, en suivant Dieu, en suivant l'Esprit, il les a conduits dans le désert. Et ils sont restés 40 ans dans le désert. Donc Moïse représente le désert, en fait, le temps du désert. Et donc quand Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort », il ne renie pas du tout tout ce que Moïse a fait pour Dieu, hein, mon serviteur. Il honore Moïse, mais en même temps il dit, « Moïse est mort, le temps du désert est terminé ». Et on a vraiment besoin de recevoir ça dans notre cœur, d'avoir une révélation de ça, parce que la première clé du réveil, c'est de sortir du désert. De cesser de tourner en rond dans le désert, là, de sortir du désert pour entrer dans le pays promis. Le pays promis, donc pour nous, c'est pas un pays physique, c'est le royaume de Dieu, en fait, pour établir le royaume de Dieu en France et ailleurs. Hein. Comme des Josué et des Caleb, remplis de l'esprit, remplis de foi, qui ont emmené le peuple à conquérir le pays. Nous, on doit le faire spirituellement. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on renonce à la mentalité du désert, à tout ce qui nous empêche d'entrer dans le réveil. Et il y a des tas de choses. Pour chacun, c'est différent. Hein. On renonce aussi au langage du désert. Le langage du désert, c'est se plaindre que les choses sont difficiles. Hein. En France, c'est difficile d'évangéliser, etc. Ça, c'est le langage du désert. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est le langage de la foi. C'est de proclamer par la foi que ce n'est pas difficile en France. Que c'est sûr, il y a des ennemis parce que nos terres ont été occupées par des puissances diaboliques depuis des siècles. Hein. Il y a la religiosité, l'esprit religieux. Hein. Il y a l'esprit d'incrédulité. Il y a l'esprit d'orphelin en France. Il y a l'esprit de mammon. Il y a l'esprit politique, le politiquement correct. Hein. Il y a l'esprit d'antisémitisme. Il y a des tas d'esprits comme ça qui occupent le terrain. Mais il y a aussi, dans l'Église, l'Église avec un grand E, hein, l'esprit léthargique qui nous endort, qui essaye de nous paralyser, surtout qu'on n'avance pas, qu'on ne fasse pas trop de choses qui puissent déranger l'ennemi. Qu'on reste froid comme des glaçons, alors que Jésus, lui, il veut nous remplir de feu. Il veut nous remplir de feu. Le Saint-Esprit veut nous remplir de feu. Donc il y a toutes ces choses qui sont nos ennemis et qu'on confronte chaque jour, plus ou moins. Et puis bon, on ne confronte pas tous les mêmes choses, mais en tant que corps, on les confronte tous. Mais nous avons la foi que ce que Dieu a promis, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Et qu'est-ce qu'il a promis dans Joël 2, verset 28? Vous le savez bien, il a promis que dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Pas seulement sur les chrétiens, mais sur les gens tout autour de nous aussi. Nous allons le voir en France aussi. Il n'a pas dit qu'il déversera son esprit sur toute chair partout dans le monde, sauf en France ou sauf en Europe. Non, il a dit qu'il déversera son esprit sur toute chair. Et ce que Dieu a dit, il le fait. Acte 2 raconte comment le Saint-Esprit a libéré le réveil à la Pentecôte. Les disciples, les 120, là, ils étaient dans la chambre haute, à trembler parce qu'ils avaient peur qu'on s'empare d'eux à cause de Jésus, etc. Et puis à attendre ce que Jésus avait promis, mais bon, voilà. Ils n'avaient pas encore vu grand-chose jusque maintenant. Hein. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, ben, ils étaient restés dans la chambre haute à attendre. Et le Saint-Esprit, ben, il les a remplis de feu. Hein. Il y a eu les langues de feu qui se sont posées sur chacun. Et puis, il a vraiment déferlé sur eux. Il y a eu un son comme un vent violent, un vent de tempête, un vent impétueux. Et il y a eu des parlers en langue. Ils se sont mis à parler en langue et c'était pas discret du tout. Pourquoi? Parce que ça a fait tellement de bruit, ce vent impétueux et les parlers en langue, les deux choses, hein, ça a fait tellement de bruit que les Juifs de tous les alentours sont accourus. Il y a une foule énorme qui est venue à cause du bruit que ça a fait. Donc c'était pas discret, c'était pas silencieux du tout, du tout, du tout. Et c'était pas politiquement correct. Les gens, ils ont cru qu'ils étaient ivres. Donc ils devaient sûrement être complètement éclatés dans la joie de l'esprit. Bon, ça devait vraiment pas être... voilà, s'ils avaient l'air de gens ivres, hein, c'était pas des gens bien, bien gentils, bien sages, voilà. Hein, à ne pas bouger dans une église, c'était sûrement pas ça. Hein. Voilà, et c'est ça que le Seigneur veut faire. C'est une nouvelle Pentecôte qu'il veut faire. Ça a été prophétisé, hein, et c'est vraiment ce que Dieu veut faire, que le plus grand réveil de l'histoire est sur le point d'être libéré sur la terre, sur toute la terre, mais aussi en France et en Europe. Et c'est peut-être plus fort encore en France et en Europe, parce que c'est là qu'il y en a le plus besoin. Mais ça va être partout, quoi. Voilà. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh ben, il y a en nous ce son du réveil qui jaillit. Et c'est pour ça que c'est en général pas discret du tout. Hein. Et ce son, donc, pourquoi il est là? C'est pas juste pour les manifestations, voilà. Mais ce son, il est là pour libérer la joie, l'énergie, l'espérance. Mais surtout, il est là pour libérer la foi. Quand on est rempli de l'esprit, on est en même temps rempli de foi. La foi. Et cette foi, elle nous donne le courage, l'audace d'aller jusqu'au bout, la détermination pour ne pas lâcher, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves. La détermination pour aller jusqu'au bout, pour conquérir nos terres pour le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est la première clé, sortir du désert et commencer à rentrer dans cette mentalité. C'est tout un apprentissage, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on a été habitué à penser comme dans le désert. Donc c'est tout un apprentissage, une rééducation, en fait, de nos pensées, de notre manière de faire et d'agir, et voilà. Mais Dieu est fidèle pour le faire avec nous. Et la deuxième clé, donc c'est juste après, hein. Après avoir dit « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi. » Donc l'Éternel s'adresse à Josué, mais après il dira aussi « toi et tout ce peuple ». Donc en fait, il s'adresse à tout le peuple. Hein. Mais il le dit d'abord à Josué « maintenant, lève-toi. » Donc en fait, c'est pour dire, ben, si on a commencé à goûter au réveil, à goûter à cette puissance du Saint-Esprit, et puis qu'on retourne dans le désert, ben, et qu'on ne se lève pas, en fait, eh bien, on retourne dans le désert. Hein? Donc, en fait, cette puissance du Saint-Esprit, Elle n'est pas là juste pour nous faire du bien, mais elle est là pour nous envoyer. Et donc, il faut commencer vraiment à agir. Mais surtout pas agir par nos propres forces, sinon ça n'aura pas de fruit. Sinon ça n'aura pas de fruit et puis on va se décourager. Mais agir par l'esprit. Alors pour ça, donc pour être conduit par l'esprit, comment est-ce qu'on peut entendre l'esprit, enfin écouter l'esprit, comment est-ce qu'on peut vraiment être conduit par l'esprit pour que justement il puisse vraiment se glorifier? Eh bien c'est Jésus qui nous montre comment marcher par l'esprit. Parce que Jésus, en fait, il est Dieu, mais quand il était sur la terre, il a choisi d'être simplement homme, d'agir comme un homme. Et donc, il n'arrêtait pas de dire, il l'a dit cette fois dans l'évangile de Jean, « Je ne peux rien faire par moi-même ». Il est Dieu pourtant, mais bon, il a choisi d'être un homme pour nous montrer justement comment marcher par l'esprit en tant qu'homme ou femme. Donc il disait, je ne peux rien faire par moi-même, je ne peux faire que ce que je vois le Père faire, ou je ne peux faire que ce que j'entends du Père, ou je ne peux faire que ce que je sais par l'Esprit. Donc ce sont déjà trois manières que Dieu utilise pour nous parler. Et il y a une quatrième manière, c'est les émotions ou les sentiments que Jésus éprouvait dans certaines situations, quand il était ému de compassion. Donc la Bible nomme ça les entrailles de compassion. Et nous sommes fils et filles du Père céleste, comme Jésus. Donc nous pouvons être guidés par l'Esprit comme Jésus l'était, soit en entendant la voix de Dieu, d'une manière audible ou pas, ou en ayant une vision, un rêve, en voyant Dieu faire quelque chose ou voilà nous révéler quelque chose, ou en recevant une pensée, une conviction dans notre esprit, ou en étant ému de compassion. Ces quatre choses peuvent servir, suivant notre personnalité, suivant ce qui nous parlera le plus, à nous révéler ce que Dieu peut faire, et alors ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et alors on peut agir en étant sûr du résultat, puisque c'est Dieu qui nous l'aura montré. Tout comme Pierre et Jean, là, ont fait lever le boiteux à la porte du temple et puis l'ont guéri. Voilà. Donc, agir pour le royaume de Dieu, ça commencera souvent par de petites choses. Et on a déjà commencé, en fait. Ça commencera par prier pour le réveil, par exemple. Ça commencera par faire des chasses au trésor où on guérit les gens dans la rue. On a déjà commencé à faire ces choses. Ça commencera par prier pour ceux qui vont sur le terrain, pour ceux qui peuvent pas aller sur le terrain. Mais ensuite, ce sera des plus grandes choses. Ce sera organiser des réunions de réveil, par exemple. Organiser des soirées miracles et guérisons où il n'y aura pas que des chrétiens, mais où l'évangile sera annoncé aux non-chrétiens. Aux gens qui connaîtront pas du tout Dieu et qu'on aura amené. Ça pourrait être des intercesseurs qui prient pour le réveil, pas seulement en France, mais en Europe plus largement. Ça pourrait être amener le réveil dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, dans le monde des médias, dans le monde des arts, des loisirs, les fameuses sept montagnes, là. Amener le réveil partout. Donc ce sera de plus en plus de grandes choses, parce que le Seigneur nous demande d'abord d'être fidèles dans les petites choses avant de pouvoir nous en confier de plus grandes. C'est biblique. Donc dans toutes ces choses, veillons à ne pas être présomptueux et à ne pas mépriser les petits commencements. Ne pas vouloir faire tout de suite de grandes choses, sauf si le Seigneur nous montrait, bien sûr, mais voilà. Vraiment marcher avec l'Esprit, à son rythme, à son pas, parce que lui, il sait à quel rythme on doit marcher, et voilà, son plan est parfait. Et puis veillons aussi à rester dans l'humilité. L'apôtre Paul dit dans Actes 20, verset 19, et pour pourtant, lui, voilà, c'était un grand serviteur de Dieu, mais il dit qu'il servait le Seigneur en toute humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, vous savez bien, et qu'il fait grâce aux humbles. Donc, voilà, veillons à rester dans l'humilité, à rester vraiment dépendant du Saint-Esprit. Et puis, avant tout, gardons la bonne motivation, qui est l'amour. C'est pas pour manifester la puissance de Dieu qu'on le fait. C'est parce qu'on aime les gens, parce que Dieu les aime, et puis qu'on veut qu'ils soient sauvés. Voilà. Alors, la troisième clé, là, ça se complique un peu, c'est « traverse le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays promis. » Traverse le Jourdain. Pendant très longtemps, je n'ai pas compris du tout ce que ça voulait dire. Mais en fait, passer par les eaux, ben, y a un texte qui nous en parle. Passer par les eaux du baptême, c'est renoncer à soi-même pour entrer dans la vie avec Dieu, hein, pour donner notre vie à Dieu et puis ressusciter à la vie de Christ en nous, quoi. Donc en fait, ben, traverse le Jourdain, ça fait référence à la mort à soi-même. Parce qu'un grand principe du réveil, c'est que tout va commencer par une semence qui doit mourir. Si le grain de blé semé en terre ne meurt pas, ben, il ne porte pas de fruits. Donc tout va commencer par une semence qui doit mourir, et nous, on est la semence. Donc on doit mourir, pas mourir physiquement, bien sûr. Dieu a besoin de nous sur la terre, mais mourir à nous-mêmes. Et donc Jésus le dit très clairement à ses disciples, hein, il ne pouvait pas le dire plus clairement ça, dans Matthieu 16, verset 24, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et dans Luc 14, verset 33, il précise « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Donc la condition pour entrer dans le pays promis, pour commencer à se saisir de la promesse du réveil, et puis, enfin, commencer ou continuer, se saisir dans la promesse de réveil et puis vraiment la mettre en pratique, marcher là-dedans, eh ben, c'est de traverser le Jourdain, c'est-à-dire de mourir à soi-même. Et mourir à nous-mêmes, ben, c'est renoncer à notre style de vie, c'est renoncer à notre culture, c'est renoncer à nos désirs, nos ambitions, même notre ministère. C'est donner au Seigneur tout ce qui fait notre vie et le laisser gérer lui-même nos biens, notre argent, notre temps, et c'est là que pour moi c'est... Mais on a tous un domaine où c'est plus difficile. Hein. Le laisser agir comme lui le veut, pas forcément comme nous on le voudrait, et des fois c'est bien déstabilisant, quand il le veut, pas au moment où nous on le voudrait. Et quand on attend des mois, des années, etc., avant d'avoir une guérison, ben, on sait ce que ça veut dire. Et avec qui il le veut ? Pas forcément avec les personnes avec qui on se sent bien, etc. Bref, donner vraiment au Seigneur toute notre vie pour vivre pour lui et pour le réveil. Et donc, bien sûr, c'est une décision initiale. Et ça, la plupart d'entre vous l'avez déjà faite, cette décision-là. Vous l'avez déjà commencée. Mais c'est tout un processus, en fait. C'est un processus de consécration continuelle de notre vie. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous montre, ben ça a encore besoin de changer dans ta vie, ça a encore besoin de mourir dans ta vie. Et donc dans Josué chapitre 3, hein, un peu plus loin, le passage du Jourdain est décrit. C'est décrit en long, en large, en travers, dans tout le chapitre. Les sacrificateurs devaient entrer dans le Jourdain, alors que le Jourdain était un fleuve qui débordait... Hein, de ses rives, hein, un fleuve en crue, quoi. Hein. Donc il devait entrer dans le Jourdain en portant l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. Il devait s'y arrêter, juste au bord, et alors les eaux du Jourdain allaient former une muraille pour qu'il y ait le sec au milieu et que tout le peuple puisse passer. Donc les sacrificateurs devaient se placer au milieu du lit qui avait été asséché et y demeurer. restait là en portant l'arche jusqu'à ce que tout le peuple ait traversé. Et donc ça nous montre l'importance de demeurer dans la mort à soi-même. Parce que, oui, même en tant que sacrificateur, hein, on a vite fait de reprendre des choses qu'on avait données au Seigneur. Hein. Un jour on dit au Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne tout. Et puis le lendemain, ou même des fois dans la même journée, on se surprend à faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire et à se dire, je te disais ça ce matin, Seigneur, ou hein, mais j'ai pas tenu, ou etc. Parce que on est humain, parce que la mort à soi-même, c'est un processus. Donc demeurer dans la mort à soi-même, mais aussi s'attendre les uns les autres. Les sacrificateurs, qui étaient peut-être plus avancés dans la marche avec Dieu, hein, devaient attendre le reste du peuple. S'attendre les uns les autres, parce qu'on est un corps, on marche ensemble. Et mourir à soi-même, c'est aussi mourir à nos blessures. Bien souvent, ce sont les blessures du passé, hein, qui nous empêche de marcher vraiment avec Dieu. Parce que les blessures qu'on n'a pas laissées guérir, c'est comme quelque chose qui nous fait nous centrer sur nous-mêmes, sur nos besoins. Alors que quand on laisse le Saint-Esprit nous guérir de nos blessures, et ça commence par le pardon, on peut être centré sur les besoins de Jésus, sur ce que Jésus veut faire au travers de nous. Et mourir aussi à nos souvenirs. Tout ce qu'on a vécu, même les bons souvenirs, ce qu'on a vécu avec Dieu, ce qui était vraiment super, ce qu'il a fait dans notre vie, etc. Les fois où on était dans le vin nouveau, ou je sais pas quoi, toutes ces choses-là. Même ces choses-là peuvent devenir des obstacles, parce que si on reste bloqué dans nos souvenirs, on s'attend à ce que Dieu agisse toujours de la même manière, à ce que le Saint-Esprit agisse toujours de la même manière. Alors que le Saint-Esprit, il agit toujours d'une manière différente, parce que les choses ont changé et voilà, les choses évoluent. La révélation de l'amour du Père qu'on a eue, c'était super, mais on ne doit pas y rester bloqué. Ça doit être un tremplin, une plateforme pour nous aider à aller plus loin, quoi. Un point d'appui pour nous aider à aller plus loin avec Dieu. Et non pas quelque chose à quoi on se raccroche. Je veux toujours vivre ces choses-là parce que c'est bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec Jésus, etc. Dans les bras d'amour de Jésus, ok, mais c'est pour ensuite être propulsé vers les autres. D'accord ? C'est un va-et-vient, en fait, entre l'intimité avec Dieu et le fait d'être propulsé pour les autres. Et si on reste que dans l'intimité avec Dieu, on loupe le but, c'est qu'on puisse aller vers les autres. Et si on cherche à aller vers les autres uniquement, on le fait avec nos propres forces, et ça va pas non plus. On a besoin des deux, de ce va-et-vient. La clé suivante, donc on est déjà à la quatrième, c'est fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est tellement important que c'est dit trois fois dans ce texte. Et en fait, dans des versets 7 à 9, donc sur 3 versets, non, pardon, 6 à 9, sur 4 versets, c'est dit 3 fois. Tellement c'est important. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a un prix à payer. Bon, déjà la mort à soi-même, mais pas que la mort à soi-même, il y a les épreuves à surmonter. Parce que, c'est évident que ce monde, il est encore sous l'emprise du malin, donc il y aura forcément des épreuves. Et puis, il y a aussi un temps, entre le moment où on se lève pour saisir la promesse du réveil et pour commencer à y rentrer, et l'accomplissement du réveil, c'est-à-dire entre le bébé réveil qui est né mais qui reste un bébé, et le réveil qui va secouer les nations de la terre, avec des millions de gens qui vont dire oui à Jésus, avec une présence de Dieu, une gloire de Dieu que la terre n'a jamais connue, et que la France n'a jamais connue, parce que ce sera en France aussi, entre ces deux moments-là, il y a un espace de temps qui sera plus ou moins long. On ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Parce que pour l'instant, la terre est toujours occupée par les ennemis du réveil. tous les esprits dont on a parlé. Hein. Donc cet espace de temps, la Bible l'appelle le combat de la foi. C'est dont il est parlé dans 1 Timothée 6,12, le combat de la foi, le bon combat de la foi. Et on sait bien, hein, Hébreux 11,1, on connaît bien la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en fait, les choses qu'on espère, pourquoi on les espère? Parce que c'est dit dans la parole de Dieu. La démonstration, ben c'est par l'esprit, par une révélation de la parole de Dieu. Donc c'est la parole et l'esprit qui vont l'esprit qui va nous enseigner toutes choses. Hein. C'est la parole et l'esprit qui vont nous conduire dans toute la vérité et puis nous faire avancer, hein, qui vont nous aider à avancer. Parce que l'esprit, ben, c'est l'esprit de vérité, mais c'est aussi l'esprit de foi, l'esprit du réveil. Donc il va nous donner une révélation plus profonde de la parole, et grâce à ça, on va pouvoir avancer. Et en fait, bon, il y avait un des chants que Julie a chanté qui parlait de se réjouir dans l'épreuve. Et pendant très longtemps, moi, se réjouir dans l'épreuve, ça me hérissait. On pleure dans l'épreuve et puis après l'épreuve on se réjouit parce que voilà, on voit ce que ça a produit. Mais dans l'épreuve, c'est pas le moment où on se réjouit. Pendant très longtemps, je pensais ça. Et en fait, le verset de Jacques 1, enfin, le passage plutôt de Jacques 1, versets 2 à 5, hein, j'avais beaucoup de mal avec ça, parce que ça nous explique en fait que quand nous avons des épreuves à surmonter, eh bien, ça doit être un sujet de grande joie pour nous. Et c'est un sujet de grande joie pour nous, parce que quand notre foi est mise à l'épreuve, ça produit la patience et l'endurance. En anglais, c'est le mot persévérance. Donc en français, c'est souvent patience, mais je préfère le mot endurance, parce que ça fait référence à la persévérance. Voilà, et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à persévérer, à ne pas abandonner notre marche de foi, à éteindre les traits enflammés du malin, hein, c'est dit dans Éphésiens 6, à être tenace, à être courageux, audacieux. Et c'est ainsi, en marchant avec l'esprit, que notre patience, notre endurance vont grandir, et nous serons, comme il est dit dans Jacques, hein, parfaits et complets, sans faillir en rien. C'est le Saint-Esprit qui va le bâtir en nous, au fur et à mesure. Et le verset de 1 Pierre, alors ça aussi, j'avais du mal avec ce verset-là, 1 Pierre 1, verset 7, eh bien, ça nous dit que l'épreuve de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. La louange, parce qu'on le louera, non pas une louange quand tout est facile, mais on le louera en ayant traversé le feu, en ayant été justement que notre endurance a été forgée en voilà dans le feu. Et la gloire, parce que Dieu sera glorifié, Jésus sera glorifié, et l'honneur, parce que Jésus aura été honoré par notre persévérance. Donc ça produit la louange, la gloire et l'honneur. Et c'est vraiment le plus grand service qu'on puisse donner à Jésus, de le glorifier, de l'honorer et de le louer non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Voilà, donc c'est tout un programme, fortifie-toi et prends courage. Et on a besoin de se le répéter les uns aux autres. Et puis la bonne nouvelle, c'est que quand l'un de nous est plus faible, eh ben, la plupart du temps, il y a quelqu'un à côté qui est plus fort et qui peut l'aider. Voilà, et c'est réciproque. Hein. Dieu est bon pour ça parce qu'il sait bien qu'on a des moments de faiblesse. Et il y a toujours quelqu'un à côté à qui on peut se confier et qui peut nous aider. Donc c'est aussi une manière que le Saint-Esprit utilise. Et puis enfin, la cinquième clé que j'ai trouvée, je dis enfin, mais il y a sûrement d'autres clés hein, que vous trouverez vous-même, vous me direz. c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors là, ce qui m'a toujours étonné, c'est de ta bouche. J'ai vérifié dans la Bible anglaise, c'est bien de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc l'Éternel dit à Josué de méditer la parole de Dieu. Et justement, nous, on ne comprend pas, parce que méditer, pour nous, c'est cérébral, quoi, c'est intellectuel. Mais méditer pour les Juifs, c'est pas du tout intellectuel. C'est psalmodier, c'est-à-dire parler la parole de Dieu, la parler jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie proclamation. Et quand on regarde les psaumes de David, hein, souvent il commençait, il se lamentait, voilà, et à la fin du psaume, c'est la louange. Souvent c'est ça, parce qu'en fait, en parlant la parole de Dieu, ben il se rappelait ce que Dieu avait fait, et puis ça terminait en louange. Donc l'Éternel dit à Josué, en fait ce qu'il dit, c'est de recevoir la révélation par l'Esprit, et c'est aussi en parlant la parole de Dieu, et en demandant au Saint-Esprit de nous l'éclairer, de nous la révéler, de recevoir la révélation de la parole par l'Esprit et de la proclamer, de libérer la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est créatrice. Et quand on libère la parole de Dieu, comme ce que Julie a fait tout à l'heure sur la France, eh ben, on crée des choses. Les choses qui ne sont pas, on les amène à l'existence. Et c'est, bon, on a un exemple flagrant dans la parole, hein, c'est Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur lui a dit, parle à l'Esprit et proclame que les eaux vont revivre là. Alors que c'était des eaux desséchées, éparpillées, voilà. Ézéchiel, il n'osait pas dire qu'ils allaient revivre, hein, il disait, toi tu le sais Seigneur. Ça paraissait tellement impossible. Et il a obéi à ce que Dieu lui demandait. Il a proclamé la parole de Dieu. Et je me doute que sa foi devait être vraiment rikiki. Hein. Mais n'empêche que ça s'est produit. Parce que c'était ce que Dieu lui demandait. Et que par la parole, il a fait survenir ce que Dieu voulait faire. Hein. Donc voilà, proclamer la parole. Proclamer les choses qui paraissent impossibles, non pas parce qu'on veut que ça se passe, mais parce que Dieu nous a montré qu'il voulait le faire, et voilà, et on le proclame, même si ça paraît impossible. Donc c'est toute une marche, hein. C'est clair que bien souvent on va se planter parce qu'on est humain, mais c'est pas grave, on continue. Et à Psaume 24, hein, on a eu un témoignage qui m'a énormément frappé. C'est que un des intervenants, hein, nous a parlé de quelqu'un, un homme, un chrétien bien sûr, qui a prié pour 7 personnes pour qu'elles ressuscitent, et les 7 sont ressuscitées. Ça paraît incroyable, hein. Alors bien sûr, celui qui nous témoignait ça, hein, il a dit, ben je lui ai demandé comment il faisait pour que ça marche à tous les coups, quoi. Parce que voilà. Hein. Et en fait, l'autre lui a répondu, ben en fait, je ne prie pas si je l'ai pas entendu de Dieu, si je l'ai pas reçu de Dieu. Et c'est pour ça, parce qu'à chaque fois, il le faisait quand il avait vraiment reçu de Dieu, et ben à chaque fois la personne ressuscitait. Il n'y avait pas un seul échec. Alors, voilà. Donc ça peut vraiment nous encourager. Parce que, bon, il n'y a pas de chouchou avec le Seigneur. Voilà. Donc, c'est une marche par la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que... le Seigneur insiste là-dessus aussi. Hein, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pas seulement sera avec toi, mais est avec toi, à chaque instant, dans tout ce que tu entreprendras. C'est un présent, c'est le présent de Dieu, où il est avec nous, dans tout ce qu'on entreprend pour lui, sur sa parole, et parce que voilà, parce qu'on veut que le royaume de Dieu vienne en France. D'abord dans le Florival et en Alsace, mais en France. Voilà, donc on a déjà bien commencé, alors qu'on puisse continuer à s'encourager les uns les autres dans cette marche de foi. Et puis bon, une des prochaines étapes, ce sera Caleb AFP, hein. ça va contribuer à faire venir le royaume de Dieu, mais vraiment que le Saint-Esprit nous dirige dans ce qu'on a à faire exactement, qu'on ne se disperse pas dans des choses, dans des bonnes idées humaines, mais qu'on fasse vraiment exactement ce que Dieu a prévu, afin que chaque chose qu'on fera porte son fruit. Chaque chose qu'on fera individuellement et chaque chose qu'on fera ensemble porte son fruit.